Salut chers auditeurs, voici l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts pour la 37e journée de championnat de Ligue 1. Avec ce déplacement des Verts à Nice, je reçois Olivier. Salut à toi Olivier.
Salut Marco, salut tout le monde.
Et Eric, salut à toi Eric.
Salut à toutes et à tous.
Voilà, pendant 50 minutes, on va essayer d'analyser cette défaite 2-0 sur la Côte d'Azur. On va parler un petit peu de foot Haute-Loire, on va passer des morceaux musicaux, on va parler un petit peu du dernier match qui nous attend pour cette petite finale face aux Dogues Lillois. Et puis, on parlera aussi des fameux coups de tête et coups de cœur qu'on a eu cette semaine. Voilà, l'émission peut dorénavant commencer avec Olivier la semaine verte.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici la semaine verte.
Ouais, on y va pour cette semaine verte. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine sur la planète verte ? Eh bien, tout d'abord, on a vu du Ruffier partout en début de semaine, ça vous a pas échappé. Suite à son énorme match face à Toulouse et puis sa note de 9 dans l'équipe, hein, il y a aussi eu la sortie de Duprat qui lui demande d'arrêter de bouder l'équipe de France. Ça aussi, vous avez suivi les gars, je le sais. Eh bien, le loup est obligé de sortir du bois. On a donc vu notre Ruff, le timide, le taiseux, répondre à quelques interviews. Et ça vaut son pesant de cacahuètes souvent. Il y avait également son entraîneur qui est intervenu, hein, lui aussi. Donc pour dire tout simplement qu'il ne refusait pas l'équipe de France. Donc on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop. Peut-être que Eric a des news là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a du mal à suivre, hein, entre la version de Deschamps, celle de Ruffier. Peu importe, enfin on verra plus tard. On a aussi appris, bonne nouvelle, que Pierre Gabriel, vous savez, le petit jeune qu'on avait vu de temps en temps dans le 11 stéphanois, eh bien, il a signé son premier contrat professionnel en compagnie de Galtier. Donc voilà, plutôt pas mal, parce qu'on avait tous apprécié ses apparitions, notamment au niveau de la vitesse d'exécution. Et puis suite au souci judiciaire de Roland Romeillet, on en a parlé en long, large, en travers la semaine dernière, vous savez, ces petits soucis avec ses parts dans le club et puis son statut qu'on conteste du côté de Saint-Etienne. Eh bien, Bernard Caillasso est venu un peu à sa rescousse. Il évoque le travail de Roland Romeillet au quotidien, et puis cet homme-là, il le soutient. Il évoque même un nom pour lui succéder en cas de petit pépin. Il s'agira de Michel Saez, le président de l'association sportive de Saint-Etienne. Et puis, qu'est-ce qu'on a appris ? Jeudi, la commission de discipline n'a infligé qu'un seul match de suspension à Loïc Perrin, et c'est bien normal, hein. Il pourra donc jouer le dernier match contre Lille. On en a bien besoin. Enfin, pas mal d'incertitudes concernant les joueurs opérationnels face à Nice. Hein, on a entendu la blessure de Coad, puis finalement, il était titularisable. En tout cas, je vais vous livrer la composition que j'avais devinée, en tout cas le schéma tactique la semaine dernière. On s'était prêté à ce petit jeu-là. Eh bien, Galtier a opté pour le système à 5 défenseurs, donc Ruffier dans les buts, Pogba, Théophile Catherine, Assoué Koto en défense. Sur les côtés, en piston, Malcuit d'un côté et Tabanou de l'autre. Le trident, cette fois-ci, était composé au milieu de terrain par Clément, Pajot et Lemoine. Et puis, alors là, c'est une innovation. Je me rappelle pas avoir vu ça à Saint-Etienne sous l'ère Galtier. Un numéro 10, Essérique, et un numéro 9 juste devant lui, Nolan Roux. Pour une sortie qu'on avait dit périlleuse du côté de Nice, on l'avait prédit et elle l'a été.
Tout à fait, donc pour cette 37e journée de championnat, en tout cas à l'Alliance Riviera, le nouveau stade de niçois faisait sale comble, puisque c'était aussi une finale pour les Niçois, hein, avec un espoir d'avoir cette quatrième place, hein, vu qu'avant ils étaient cinquième avant la rencontre. Donc le stade était plein, Eric était présent, il nous racontera son ressenti, hein, sur ce stade, sur l'ambiance tout à l'heure. Voilà, Galtier affiche tout de suite d'entrée Bah, sa stratégie, hein. La défense, la défense, la défense. Et ça commence timidement, cette rencontre, puisqu'il, les Niçois ont la possession de balle, mais face à des Verts regroupés en défense, ils n'arrivent pas à aligner trois passes consécutives, les Niçois, en tout cas dans le camp stéphanois, et ça revient toujours en retrait. Et il faut attendre la première alerte, elle sera en faveur des Stéphanois suite au premier corner tiré par Tabanou. Sinon, deux minutes plus tard, c'est Germain qui fait un peu peur aux supporters stéphanois puisqu'il tombe dans la surface sur la pression de Tabanou. Mais Monsieur Millot, l'arbitre du match, ne siffle rien. Et en revoyant les images, on voit bien que bon, il y a absolument rien. Il se prend les pieds dans le tapis, l'ancien monégasque. Voilà. Le Marchand se fait mal en taquant Estric. Ça, c'est assez important puisque Genevois va rentrer à sa place et ça va un petit peu changer la donne dans la charnière centrale niçoise. Et autant sur le coup franc obtenu par Estrix ne donnera rien. Mais bon, on le savait que sans Perrin, sans Salle, sans Tanane, sans Monet Paquet, sans Söderlund, ça allait être difficile avec un Amouma sur le banc en plus. On est vraiment allé sur la Côte d'Azur pour défendre, pour défendre. Coup franc pour les Niçois, la 17e minute après une grosse faute d'Assoué Koto sur Ben Arfa. Ben Arfa le tire, se fait justice, il trouve la tête de Baïs, mais qui est signalé en position d'hors-jeu. En deux temps, il avait trompé Ruffier, mais c'est logiquement que le score reste vierge 0-0. On assiste à des bonnes séquences du côté de Nice, mais sans jamais avoir des occasions, en tout cas des tirs au but. Ruffier a pas eu grand chose à faire au cours des 30 premières minutes de jeu. Et puis Valentin Estric, on peut souligner qu'il a été sanctionné par un carton jaune, donc il va un petit peu freiner dans son jeu. Et les Verts empêchent toujours les Niçois d'avancer vers l'avant et de s'approcher des cages de Ruffier. Le troisième corner obtenu par Saint-Étienne, bien tiré par Tabanou, va faire mouche puisqu'il va trouver la tête de Roux. Et Roux smash d'un joli coup de tête décroisé et s'est repoussé sur la ligne par Cotiello. Là, c'est à ce moment, à la 31e minute de jeu. C'est la plus grosse occasion stéphanoise de ce match. Et ça aurait pu finir au fond et ça aurait été surprenant, en tout cas, vu la physionomie du match. Mais avant le coup de sifflet de la première mi-temps, c'est une faute d'Assoué Koto dans sa relance qui va permettre une belle occasion niçoise. C'est Germain qui récupère la balle et qui adresse en profondeur une belle passe à Pléa qui dans la surface frappe à la droite de Ruffier. Son tir est trop croisé, mais ça frôle quand même le poteau droit de Ruffier. On s'en tire bien sur cette occasion-là et on s'en tire bien avec ce score de 0-0 à la mi-temps. On assiste à une rencontre assez musclée, assez âpre et avec un bloc stéphanois très défensif.
Ouais, exact. avec à la mi-temps un Pogba qui semble confiant, hein. J'ai vu encore les images tout à l'heure. Puisque ce match, il fallait se lever de bonne heure pour le voir à la télévision. Pogba confiant, est-ce qu'il avait raison d'être confiant, Eric ?
Raison, je sais pas. C'est vrai que la première mi-temps était très cadenassée, comme a dit Marco. Les Verts forment un bloc compact qui empêche les Niçois de développer leur jeu. Donc la seconde période, malheureusement, va être une succession de coups durs. Le premier intervient à la 56e minute lorsque Malcuit fauche à l'entrée de la surface Pléa, qui avait percé plein axe. Malcuit, qui juste auparavant avait été averti suite à un tacle irrégulier sur un Pereira très en jambe. Deuxième carton jaune en deux minutes pour le défenseur stéphanois, qui est donc exclu par Benoît Millot. C'est la deuxième fois depuis le début de la saison que Malcuit laisse ses coéquipiers à 10. Théophile Catherine, du coup, se décale à droite. Le coup franc bien placé pour les Niçois est tiré par Ben Arfa. Il enroule bien sa frappe, mais ne parvient pas à trouver le cadre. Deuxième coup dur pour Marco cette fois, à la 58e minute de jeu. Pajot, victime d'un claquage à la cuisse, est contraint de céder sa place à Coad. Désormais en supériorité numérique, les Niçois accélèrent. À la 63e, Seri, l'un des buteurs du match aller, hérite du ballon côté gauche, élimine le Moine, mais frappe à côté. On retrouve les deux hommes 4 minutes plus tard, le Moine fauche Cosiello dans l'axe, nouveau coup franc bien placé pour le Gym, tiré cette fois par Seri. La balle est cadrée mais Ruffier se couche bien et la détourne au prix d'une belle détente. À la 70e, Essiric, prêté par les Aiglons avec option d'achat, est remplacé sous les sifflets de l'Alliance Riviera par Amouma. Peu après, grosse occasion pour Nice, Pléa côté droit adresse un bon centre repris instantanément par Germain, mais Ruffier d'un arrêt réflexe de grande classe sauve les siens. Tabanou sort avec la balle, se fait devancer par pied, puis perd ses nerfs et commet un bien vilain geste sur celui qui est annoncé chez les Verts l'an prochain, un coup de pied à pied totalement inutile et qui coûte cher. Benoît Millot brandit pour la deuxième fois de la soirée un carton rouge. De grosses échauffourées éclatent alors. Suite à ce début de bagarre générale, l'arbitre distribue 4 cartons jaunes de chaque côté. L'aventure stéphanoise en tout cas se termine en autre boudin pour Tabanou et les Verts se retrouvent à 9 pour le dernier quart d'heure. L'objectif est clair à présent, il faut tenir, résister au coup de boutoir des Niçois, préserver coûte que coûte la cage de Ruffier inviolée. À la 77e, Ben Arfa centre pour Traoré qui vient d'entrer en jeu et dont la reprise de la tête passe à côté. C'est le siège devant les buts stéphanois, Christophe Galtier sort roux et fait entrer Poloma, un défenseur supplémentaire. Coad, déjà averti, évite par miracle un nouveau rouge sur un tacle non maîtrisé au milieu de terrain. À la 80e, pied côté droit délivre un bon centre pour Germain qui se jette mais ne fait qu'effleurer la balle. Les Verts ne parviennent plus à endiguer les offensives niçoises et finissent par craquer. À la 86e, Cosiello récupère la balle, écarte à droite sur Pléa qui centre. Germain surgit, coupe la trajectoire et trompe Ruffier. Il délivre la lance Rivera et crucifie les Verts. Fin de la belle série d'invincibilité de Ruffier, 692 minutes sans encaisser de but. À la 89e, Assou et Koto manque sa transversale. Les Niçois récupèrent la balle, Traoré accélère plein axe, fixe Pogba et décale Germain sur sa gauche. Malgré l'angle fermé, il parvient à piquer son ballon qui finit sa course dans la lucarne gauche de Ruffier, battu pour la deuxième fois en 3 minutes. Cette pichenette de Germain, auteur d'un doublé, met fin aux derniers espoirs des Verts. Les Aiglons s'imposent 2-0, remportant ainsi un cinquième succès de suite à domicile. Ils ont gagné leurs deux matchs face à nous cette saison, ce qui n'était plus arrivé depuis 2010-2011. Ils nous doublent et s'emparent de la quatrième place. Le système défensif mis en place par Christophe Galtier a fonctionné en première mi-temps, mais en se faisant bêtement expulser Malcu et Tabanou, on réduit à néant les efforts de tout un groupe. À 9 contre 11, c'est devenu quasiment mission impossible. Les joueurs ont résisté tant qu'ils ont pu. Ruffier a retardé l'échéance, mais a fini par céder en toute fin de match. Pour reprendre notre quatrième place, il faudra non seulement combattre Lille, mais aussi que Nice soit battu à Guingamp, qui n'a plus rien à jouer.
Et oui, réduit à 10 puis à 9, bah, c'était l'état de siège, hein, tu nous l'as dit Eric, c'était Fort Alamo. Ça sera le premier titre Fort Alamo de Jean-Louis Murat.
Qu'il est dur de défaire, j'en reste carreau. Dans ta ville frontière, cise au bord de l'eau, abruti de lumière, comme pris au lasso, je me laisse défaire de tous mes oripeaux. Geste d'orfèvre, ta vie de femelle, je te jure que je m'en fous. Le plaisir vorace dans l'impasse et alors. Ma vie vulgaire dans l'armée de l'air, je garde l'amour, c'est tout. Plus rien n'est en place comme tout s'efface, et alors je m'en fous. Voilà donc la disgrâce. Où sont les chevaux, mon ami Pégase? Et la belle aux eaux, où je n'ai plus de visage, je je reste caché, caché dans ton ombre, ton ombre portée. Je suis dans l'espace, un temple de glace, je n'aime plus rien du tout. Malgré les menaces, comme tout me lasse, je m'en fous, je m'en fous. Si dans toute bonté internationale, je ne vaux plus le coup. C'est l'adieu aux armes, l'oubli est en place, et alors je m'en fous. Redonnez-moi la lumière sur ce champ muet. Ce long chant de misère et de vanité. Comme tout est triste dans l'air, où tout est à côté. Ami, voilà ma prière, voilà mes péchés. Je suis dans l'espace, un temple de glace, je n'aime plus rien du tout. Oh, je m'en fous, je m'en fous. Je vis dans la crasse, je suis dégueulasse, et alors le chien de l'espace dans la glace n'aboira plus. Ouh, ouh, ouh.
Fort à la mot, Jean-Louis Murat, sur l'album Dolores, qui date de 96. Alors pourquoi Jean-Louis Murat, pourquoi Fort à la mot, Fort à la mot? Je vous l'ai expliqué, cher auditeur, mais Jean-Louis Murat, bah, parce qu'il sort un album ce mois-ci, c'est Morituri. J'essaierai de me le procurer rapidement pour le passer sur les antennes de la radio.
Et puis il est fan de foot. Hein.
Et puis oui, oui, c'est un fan de foot, pas, et c'est un Auvergnat.
Fan voilà. Et fan de foot. Fort à la mot. Il faut dire qu'il y a 24 heures, l'AS Saint-Etienne occupait la 4e place. Et puis depuis, bah, ils se sont fait détrôner par leurs adversaires du soir, Nice. Alors c'est tout simple. Je vais demander à mes deux accompagnateurs ce soir de défendre, de donner des arguments. Et je crois qu'Eric croit encore à la 4e place. Tandis que Marco, lui, est totalement opposé. Voire même, il souhaite même que les Verts soient punis sur cette action là depuis quelques temps. Eric, je te laisse la parole, c'est moi qui vais trancher, attention.
D'accord, non mais le vert et la couronne d'espoir, on va y croire jusqu'au bout. Donc là on occupe la 5e place, on est à 2 points de Nice avec malheureusement un goal à virage très défavorable, 10 buts d'écart. Donc la seule solution c'est qu'on batte Lille lors de la dernière journée, mais qu'en même temps Nice s'incline sur la pelouse de Guingamp. Donc pourquoi j'y crois? Alors pas par rapport à la qualité de jeu qui certes n'est pas formidable, mais on peut espérer que dans un dernier match à Geoffroy-Guichard, dans un Geoffroy-Guichard en chaudron, en ébullition, on parvienne à battre cette équipe de Lille qui va jouer sans son meilleur atout offensif. Peut-être que nous, on va récupérer Béric également, qui a fait son retour en réserve et qui a marqué un but. Donc, pourquoi c'est possible que Guingamp batte Nice? Parce que Guingamp, lors des dernières rencontres face aux équipes du top 7, on va dire, ont fait deux résultats plus que positifs en s'imposant 3-0 à Rennes dans le derby. Ils sont également parvenus à faire 0-0 sur la pelouse de Lille dans un match disputé en semaine. Donc pourquoi pas, comme a dit l'entraîneur guingampé Jocelyn Gourvennec, Guingamp a l'habitude de remporter sa dernière rencontre à domicile, donc j'espère que c'est une tradition qui va perdurer et qui va pouvoir permettre au peuple vert d'espérer décrocher cette 4e place qui nous éviterait de passer par les tours préliminaires.
Concernant le match entre Guingamp et Nice, moi je vois pas Nice lâcher alors que c'est l'occasion de marquer l'histoire, hein, parce que être à ce niveau à une journée de la fin, je crois que c'est pas arrivé souvent chez ce club azuréen. Ils ont en plus la possibilité de viser la Champions League, hein, parce que Monaco qui reçoit Montpellier, c'est pas fait, et ils peuvent passer encore pour cette troisième place. Donc ils vont tout faire pour l'emporter en terre bretonne. Et puis concernant Saint-Étienne, c'est un tir cadré en 180 minutes de jeu. C'est un jeu inoffensif à tout point de vue et qui me désole de match en match. Mais bon, si vous avez suivi l'émission de la dernière fois, vous avez compris mon sentiment. Ils m'ont vraiment découragé et ils m'ont mis un sale coup derrière la tête avec cette prestation face à Toulouse. À mon avis, c'est là que le bas blesse, hein, c'est la rencontre précédente. Là, on était à l'extérieur. Galtier a voulu jouer absolument pour revenir avec un seul point, hein. C'était engagé dès l'entame de match. On n'allait pas chercher la victoire. Moi, ça me dérange quand au début d'une rencontre, on ne va pas chercher la victoire. C'est la politique de Galtier depuis plusieurs années, on va dire. Bon, ça dépend, hein, début de championnat, fin de championnat, avec les matchs de Coupe d'Europe, il arrive à gérer tout ça. Mais depuis 2-3 ans, c'est vrai qu'il n'a pas un super effectif, mais il arrive avec cette conviction de faire un match nul dès l'entame du match. Moi ça me dérange.
On en parlera.
Moi ça me dérange quand on joue au foot, c'est tout.
Tu m'as convaincu trop tard. Marco m'a convaincu, bien sûr, hein, j'étais facilement de ton point de vue, parce que même si ça sera le dernier match de Gourvennec à domicile, certainement il va changer de club, hein, l'entraîneur Guingampé, il aura envie de finir sur une bonne note. C'est vrai qu'on voit mal les Verts déjà l'emporter, et puis on voit mal cette équipe niçoise où là encore ça sera le dernier match de Ben Arfa sur ses couleurs niçoises, ne pas briller, ne pas laisser un bon souvenir. Même Puel, hein, il a envie de partir avec une belle dernière note. Donc je donne le point à Marco. Nice. Et par contre, j'aimerais que tu développes l'idée selon laquelle finalement, est-ce que ça serait pas un mal pour un bien que les Verts se fassent vraiment écarter là, de voire même de l'Europe pour l'année prochaine.
Ça fait 2 ans que Saint-Étienne fait plus de 50 matchs par saison. Des fois, il faut choisir. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas connu une saison sans parcours européen. Et des fois, ça pourrait peut-être faire du bien d'avoir simplement une quarantaine de matchs par saison pour se focaliser sur un parcours, que ça soit la Coupe de France ou simplement le championnat de France et briller. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. On a loupé certains points cette année qui sont dommageables. Bon, je pense à des rencontres face à Monaco, c'est des points perdus. Le premier match face à Toulouse où on se fait voler, c'est regrettable. Ça peut changer la donne en fin de saison aussi, hein, c'est vrai. Mais la qualité affichée par les Verts depuis 2016, c'est quand même assez dépressif, ouais. Hein. C'est triste, plombant. C'est triste à voir, et moi je me reconnais pas, et ça m'emmerde quand je vais au stade assister à aussi peu d'actions de but.
C'est pas parce que vous êtes découragé qu'il faut cesser de les encourager. Nice a perdu récemment à Nantes, c'était la surprise générale, alors pourquoi pas une défaite à Guingamp. C'est vrai qu'on en vient à espérer des autres, de la défaite des autres, donc par rapport à notre jeu, je suis d'accord avec vous.
Nantes n'avait pas forcément grand-chose à jouer non plus, et ils l'ont emporté face à Nice.
C'est le football, on peut l'emporter 4 buts à 1 samedi prochain face à Lille. Hein.
Même 4-1 à la mi-temps.
Là, j'ai plus de doutes quand même.
Comme nos voisins.
ouais, j'ai plus de doutes. Puis deuxième débat. Alors cette fois-ci, c'est toi, Eric, qui va trancher. On va essayer de voir si la composition de Galtier à Nice était la bonne. Moi, je vais plutôt. J'ai trouvé qu'elle était plutôt bien pensée. Je l'avais déjà dit. Tu commences, Marco. Tu aurais mis quelque chose. Elle te va cette composition quand tu l'as vue. Moi, elle m'allait, par exemple. justement, j'aurais envie qu'on argumente.
La composition de samedi.
Ouais.
Si elle m'allait.
Ouais.
Ah non, pas du tout. Déjà, elle ne correspond pas du tout à celle que j'avais donnée la semaine dernière. Puisque.
Il manque un joueur.
Ouais, mais en plus, il manque un joueur. Mais bon, je ne suis pas loin, puisqu'ils ont fini à 9.
10, c'est pas loin de 11. Ouais. Il n'y avait pas joué en plus.
Il n'y avait pas joué. Non, mais non, ça ne me va pas. Déjà, quand tu mets mal cuit, il y a un hic. Et quand tu mets pas joué, il y a un hic. Ouais, c'est triste. Le seul NES qui joue pas, moi, ça me rend triste aussi. Mopé qui joue pas, ça me rend triste. Titularisé Esric, alors pourquoi pas, c'est son club. Il était là pendant 2 ans à Nice. Ouais, mais bon, au bout de 10 minutes, tu le vires, quoi. Donc non, il y a Roux qui m'a plu. Mais bon, il était...
On en
vraiment,
parlera des
vraiment
des tops
et des flops. Essolé, mais non, ça m'a pas plu, quoi. Moi, j'attendais. Tu vois, t'as parlé tout à l'heure, Pierre Gabriel. Bah, pourquoi il est pas d'entrée? Pour moi, c'est incompréhensible. Et puis après, il fait rentrer Polomat. Moi, ce que je veux dire, c'est que je veux plus de Malcuy, je veux plus Esric, je veux plus Polomat, je veux plus Pajot. Je pense que sans cela, ça ira mieux. Et même s'il n'y a pas mieux, ça me soulagera.
D'accord, je vais essayer de défendre Galtier sur cette action, parce que déjà on l'avait dit, c'est difficile de changer complètement de stratégie lorsque on a fait une équipe pour subir, pour opérer en contre pendant la moitié de la saison. Hein. On se rappelle qu'il avait commencé en voulant faire du jeu, puis ils en ont pris 4 contre Nice déjà au match aller. Puis du coup après, on est tous redescendus, tout le monde est bien redescendu sur le terrain. On a vu un Nice Saint-Etienne plutôt défensif, hein. Ça fait maintenant 4-5 mois qu'on voit une équipe qui défend. Ça leur réussit, c'est vrai. Ils étaient quatrième avant cette rencontre. C'était l'objectif du club. Donc, c'était difficile de changer complètement de stratégie. Il a un petit peu été habile parce que, en l'absence de Perrin et de Bayal, ben, pour moi, c'était la seule solution pour voir une équipe bien en place. Alors, le hic, en effet, c'est que Assou et Koto est pas très à l'aise dans ce poste d'arrière central. Et puis voilà, pour moi c'est pas la tactique qui était mauvaise, c'est finalement l'expérience de ces deux joueurs, hein, un Tabanou et un Malcuy. Sans leur expulsion, pour moi, on va jusqu'à au terme de la rencontre à 0-0 et aujourd'hui on parlerait de on dirait des choses tout à fait différentes.
Oui, il est pas loin, Galtier, d'avoir réussi son coup, hein, le point qu'il allait chercher, pourquoi pas. Mais dès qu'il y a un hic dans sa stratégie, et ben tout tombe à l'eau. Donc voilà, c'est...
Et puis c'est pas la première fois que Malcuy, il est coutumier du fait.
Oui, alors on peut parler de l'incompétent Malcuy. Il a rien à faire avec ce maillot vert. Moi, ça fait déjà contre Monaco, il s'était fait virer de façon incompréhensible. Il le remet, alors il a mis du temps, Galtier, pour le remettre. Et il lui donne une nouvelle chance ces derniers temps. Et là il commet l'impensable. C'est deux grosses bêtises. Je ne peux plus le voir avec le maillot vert. Vous n'êtes pas d'accord, vous ?
Si, mais d'abord, il faut qu'il tranche sur la tactique. Est-ce que Galtier a eu raison de mettre cette équipe-là ?
Bah, disons que le schéma correspond à la situation actuelle. Donc là, le schéma, c'était en 5-4-1, c'est bizarrement, avec un milieu en losange. Bon, après, s'il y a quand même, on a attaqué le match avec 9 joueurs à vocation défensive. Alors, bon, on pouvait pas espérer mieux dès le départ qu'un match nul. On a joué avec nos arguments. Le problème, c'est qu'on n'en avait pas d'autres à faire valoir. Donc, on a bétonné. Alors, il y a beaucoup de densité dans l'axe au milieu, donc c'est difficile de contourner ce bloc de 5. Bon, ça a posé des problèmes à Nice, hein, qui avait très peu d'espace, très peu de liberté pour s'exprimer. Et après, donc, ce qui a changé la donne, sont ces deux expulsions, ces deux cartons rouges qui ont totalement modifié les choses. On a subi après, en fin de match, comme jamais, les assauts niçois. On est accueillis devant le but. Dans les quarts d'heure, c'est résumé à une attaque défense. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de jouer dans ce système de jeu. Mais après, les joueurs n'étaient pas forcément... les plus appropriés pour certains, comme vous l'avez dit, pour remporter ne serait-ce que ce point qui nous aurait fait tant de bien et qui nous aurait permis de rester devant notre adversaire du soir.
Au moindre couac de cette stratégie de Galtier, eh ben voilà, tu te fais avoir, quoi. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Oui, défense, Pete Gervais, Ministry of Defense.
Stairs and walls are all that. that's left. Mortar holes let through the air. Kids do the same thing everywhere.
They spray graffiti.
De la défense revue et corrigée par Paulie Jean Hervé sur son dernier album The Op 6 Demolition Project. Ministère de la défense et le ministre c'est Galtier. Voilà.
Ouais, alors maintenant de manière très rapide on va faire un top flop. Toutes les émissions le font, pourquoi pas nous, mais on va faire rapide hein, s'il vous plaît messieurs. Donc qui est-ce qu'on repêche côté stéphanois dans ce marasme?
Stéphane Ruffier, bien évidemment. Une nouvelle fois irréprochable et qui a sorti deux arrêts de grande classe face à Seri et Germain. Il a retardé l'échéance tant qu'il a pu. Et en fin de match, à 9 contre 11, il y avait beaucoup trop d'espace. Il a dû s'incliner à deux reprises, livré à lui-même. En tout cas, un coup de chapeau à lui. Deux mois sans prendre de but, chapeau. Hein, il mérite vraiment d'être salué. Enfin, sa prestation mérite d'être saluée comme elle se doit. C'est le grand bonhomme de cette fin de saison et c'est grâce à lui qu'on peut encore espérer. Sinon, moi je dirais Pogba, j'ai trouvé sa rentrée plutôt intéressante la dernière fois. Il a été rigoureux défensivement, il a répondu aux attentes placées en lui en l'absence de Perrin et Bayal, et peut-être Théophile éventuellement.
Ouais, moi je rajouterais Roux.
Roux.
Parce que il était tout seul
en pointe et il a couru, il a essayé. Et moi, ce qui m'a fait mal, je vous l'ai dit tout à l'heure en antenne, c'est lorsqu'il a réussi à passer de Niçois sur le côté droit, il a centré pour lui-même puisqu'il n'y avait personne dans la surface de réparation. Et ça m'a vraiment plombé. Donc, mes chapeaux à Roux quand même. Parce qu'il a fait quand même le tir cadré qu'on attendait depuis si longtemps.
Sur les chapeaux de roue.
Sur les chapeaux de roue.
Exactement. Je répète, hein, je vais te faire que répéter. Alors Eric, tu vas juste, moi mon top c'est l'entraîneur de Ruffier. J'ai eu l'occasion de le voir dans cette semaine.
Fabrice Grange.
Ouais, j'adore ce tempérament. Et on souligne souvent Ruffier, mais je pense que l'entraîneur qui est derrière, il est pas innocent dans ses performances. Et puis c'est quelqu'un qui impressionne quoi, hein, quand sur un plateau télé, je l'ai vu dans l'émission consacrée au vert sur TL7, il impressionne et ça correspond bien à notre Ruffier. Maintenant sur les flops, messieurs.
Flop pour moi, Franck Tabanou, qui offensivement n'a rien apporté, et puis la plupart de ses corners ont été mal tirés, et puis il y a cette faute inutile et stupide qui coûte un rouge et laisse le vert à 9. Alors moi je croyais que son retour serait bénéfique, hein, l'an passé il avait fait une très bonne saison. Alors quand il est arrivé, il a pas mal enchaîné les matchs, parce que Assou Ekotto à ce moment-là était blessé. Quand il est revenu, il a récupéré sa place, et puis depuis c'est lui le titulaire indiscutable. Voilà, donc Tabanou qui va quitter le groupe, et bon, c'est vraiment un regret parce qu'il aurait pu apporter autant que l'an passé, et finalement c'est un échec, comme a été un échec le retour de Guy Lavogui. Ensuite mal cuit, on en a parlé tout à l'heure, un excès d'engagement qui coûte cher, un manque de jugeote également, parce que pour prendre deux cartons jaunes en deux minutes, faut le faire. On lui a redonné sa chance là, lors de cette rencontre, alors qu'il était passé complètement au travers la semaine dernière, il avait été sorti à la mi-temps, et puis voilà la récompense. Et puis pour moi, Assou Ekotto qui fait une double erreur d'entrée, il manque totalement sa transversale, et puis après il défend pas dans le dos de Pléa qui se procure la grosse occasion en première mi-temps. Et puis c'est à nouveau sur une de ses transversales ratées qu'en fin de match Nice récupère la balle et s'en va inscrire le deuxième but. Et Cyric également, qu'on n'a quasiment pas vu, qui n'a pas eu d'influence sur le jeu.
Ça fait beaucoup, hein, pour Malcuit. Et
les mêmes. Je ne vais pas développer parce que c'est les mêmes.
Je rajouterais que beaucoup de... Bah, peut-être nous, hein, on y a cru à Malcuit. Et je me souviens même du site Le Diable Vert qui l'encensait, qui poussait Galtier, qui ne comprenait pas pourquoi Galtier ne le titularisait pas. Mais je crois qu'il a compris. On a tous compris sur ces deux rencontres. Pourquoi Galtier hésitait autant?
Non, mais sur les 4-5 qu'il a pu faire dans son intégralité, on peut dire que c'est un joueur qui a pas le niveau, hein. Que ce soit en coupe, le premier match qu'il a fait, je crois que c'était face à Nantes. Je suis pas sûr, c'était un début de septembre-octobre, mais pas bon.
On va passer à des choses plus réjouissantes, hein. Alors vous le savez, on fête les 40 ans de la finale du beau, joli parcours des Stéphanois en Coupe d'Europe, hein, de Glasgow. Et on avait un envoyé spécial, Eric. Est-ce que juste tu peux nous dire comment ça s'est passé, la séance de dédicace des anciens verts? C'était sympa, tu y étais, il y avait beaucoup de monde.
Beaucoup de monde ce vendredi en effet à Auchan de Villars, où tous les anciens verts étaient conviés pour une séance dédicace, donc qui était prévue, qui devait commencer à 16h. Elle a commencé vers 16h45, devait s'achever 2h plus tard, et tout le monde est reparti aux alentours de 20h-20h30. Les anciens verts sont restés jusqu'au bout, donc c'était un beau geste de leur part, mais il y avait énormément de monde, beaucoup de gens qui se pressaient donc pour voir donc les héros de 76 se faire dédicacer pas mal de choses. Et donc voilà, c'était vraiment un bel engouement. Encore une fois, ça fait plaisir de voir autant de gens affluer en ce jour férié pour aller voir les Verts 76, ceux qui ont écrit la légende. Et c'est pas fini, parce que toute la semaine, il y aura beaucoup de choses de prévues à Saint-Etienne.
Mais on en reparlera la semaine prochaine. Alors toi qui fréquentes et les TRA, c'est-à-dire les joueurs d'aujourd'hui, hein, qui ont entre 20 et 25 ans, et ces anciens joueurs, là, tu étais amené à les côtoyer et à apprécier un peu leur gouaille, leur humour. Est-ce que tu vois bien finalement la différence de génération? Est-ce que les joueurs de il y a 40 ans étaient un peu dans la mentalité, quoi? Est-ce que tu vois des grosses différences?
C'est différent déjà quand tu rencontres des joueurs qui jouent actuellement et qui sont des anciens joueurs. Une fois qu'ils ont arrêté leur carrière, ils sont beaucoup plus disponibles, c'est très différent. Par contre, des joueurs en activité, moi je vois la différence par rapport à il y a une vingtaine d'années, hein, par rapport à d'autres joueurs que j'ai pu côtoyer, parce que les anciens, ben, je ne les ai pas côtoyés bien sûr. Là, je les ai vus assez pendant plusieurs heures, donc c'était vraiment très très sympa de pouvoir revoir ces joueurs-là, donc ces joueurs mythiques, hein. Mais par contre, effectivement, par rapport à il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, on voit une vraie différence. Les joueurs sont malheureusement aujourd'hui beaucoup moins accessibles qu'ils l'étaient auparavant.
On va dire que c'est la pression médiatique. On parle de la Haute-Loire, puisqu'il s'est passé des choses, Marco, du côté de la Haute-Loire.
Jingle.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire.
En CFA, le Puy avait un déplacement dans le Bourbonnais. Le Puy revient avec une défaite 4-1 face à Moulins. Et oui, de bonnes intentions de la part des joueurs de Roland Vieira, mais les Bourbonnais ont été beaucoup plus réalistes et ils inscrivent dès la 24e minute un premier but. Et puis en deuxième mi-temps, sur deux contres menés, c'est Alouache et Cuvier qui vont inscrire le deuxième et troisième but. On peut souligner aussi que Doulin pour les Ponos qui va réaliser un coup de tête à la 69e minute pour réduire le score, mais le score final est de 4-1, ce qui plonge le Puy à la 14e place. Donc il va falloir réagir s'ils veulent se sauver. Donc il y a Iser qui est simplement à un point devant eux. Il reste trois rencontres, il me semble. Donc en trois rencontres, il faut engranger le maximum de points pour rester dans son championnat foot amateur. En division d'honneur, Polignac recevait le leader Chamalières. Et Polignac s'est incliné à domicile, donc face à la banlieue de Clermont, 2-0. Voilà, ce qui les plonge à la cinquième place pour les Polignacois. Et Chamalières est plus que jamais bien leader de cette division d'honneur. En division d'honneur régionale, Chadrac a perdu à La Palisse 2-1. Et puis Espaly l'a emporté 4-0 face à Vallée de l'Autre. Et voilà, le ticket pour la division d'honneur est maintenant acquis, hein. On en a parlé ces dernières semaines, ils avaient effectivement une douzaine de points, là ils ont plus de 10 points d'avance et il reste que 3 matchs, donc c'est chose faite. Espaly sera en division d'honneur l'année prochaine. J'ai pas le résultat du derby Le Puy-Blavozy en division d'honneur régionale Poule B. Mais bon, vous regarderez le journal dès aujourd'hui, chers auditeurs, et vous le saurez si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà pour la page Haute-Loire.
On passe un dernier titre, Marco, avant de rejoindre nos coups de cœur, nos coups de tête.
Oui, on va passer un groupe que j'aime bien, une petite photographe qui est un petit peu musicienne aussi. Elle est d'origine américaine, française-américaine. Le titre, c'est Trap, et je vous explique pourquoi après. I will fall into your trap. You won't get me just like that. But it ain't easy to begin. When the waves are coming in. I will fall into your trap. Somewhere else to hide. I won't. Diane Seignier, la chanteuse de Camp Claude, oui, du rock électro franco-américain. Alors avec ce titre Trap, c'est le piège. Pour la prochaine rencontre de Saint-Étienne à domicile, avec la réception de Lille, il ne faut pas tomber dans le piège du non-jeu, puisque les Verts et les Lillois ont cette particularité un petit peu de trop défendre. Et j'espère que moi qu'on va assister à un match un peu foufou, et j'aimerais vraiment pour ce dernier match que ce soit la fête tout simplement, et puis on le mérite assez, parce que là ça fait 3 mois qu'on se déplace et où on n'est pas vraiment gâté. Donc ça soit la fête pour la semaine prochaine et qu'on tombe pas dans le piège du non-jeu.
Ok, on va passer au coup de cœur, de tête, lesquels? Si je te laisse choisir.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Les coups de cœur. Olivier.
Ouais, coup de cœur, c'est si je vous dis Skip the Use, vous me dites
Lille.
Oui, mais aussi l'hymne des Bleus pour l'Euro. Non, mais simplement pour dire que c'est mieux quand même que Denis Fabre, hein, lors d'une édition précédente de la Coupe du Monde, avec son titre Olé la France.
Et je l'ai en 45 tours.
Ou que Johnny Hallyday avec Ohé les champions, on est tous ensemble. Voilà, dans le même style, on préfère sûrement Omar et Fred. Vous vous rappelez, ils avaient fait quelque chose en 2010. Mais Skip the Use, voilà, ça promet, c'est plus sympa déjà. Je suis sûr que ton coup de cœur est le même que le mien. Le deuxième, c'est le retour de Robert. Alors,
je croyais que t'aimais pas les Robert.
j'ai dit que c'était la première fois que j'étais content du retour d'un Robert. Et il a marqué. Il est revenu et il a marqué.
Donc effectivement, coup de cœur partagé pour le retour gagnant de Béric. Je l'ai vu vendredi matin à l'Etra, donc on a un petit peu discuté en anglais du coup. Et il m'a dit qu'il sentait prêt. Après, ça dépendait du coach. Donc le coach a décidé de le laisser à la disposition de l'équipe réserve. Il est rentré en 2e mi-temps. C'est lui qui marque le but stéphanois. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça pouvait redonner de la confiance à ses partenaires. Et coup de cœur également pour moi pour Augusto, hein, qui je vous en ai parlé à l'époque où il avait signé à l'Atlético. Et il s'est imposé comme titulaire dans cette équipe qui est un peu la sensation en ce moment. Et là il s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions 2 ans après avoir disputé sur le banc la finale de la Coupe du Monde. Donc c'est un joueur qui n'a jamais vraiment eu sa chance chez nous. Et puis en ce moment il y a un film qui passe en boucle sur Canal qui s'appelle Qui c'est les plus forts. Je sais pas si vous l'avez vu, messieurs. La scène se déroule principalement dans la Loire, à Saint-Étienne, où il y a des scènes à Geoffroy Guichard ou à Saint-Chamond. J'avais eu la chance de le voir en avant-première l'an passé au Camion Rouge à Saint-Étienne quand il était sorti avec la réalisatrice Charlotte de Turckheim et puis les actrices Audrey Lamy et Alice Paul. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Il y a plein de clins d'œil sympas sur nos verres.
D'accord, coup de cœur pour moi. J'ai aimé le commentaire de Bein Sport en différé, parce que le gars il est tout seul et pendant 90 minutes il arrive à décrire correctement le peu d'occasions qu'il y a eu au cours de ce match. Non mais sérieux, il est vraiment bien et ça fait plusieurs fois que je le dis, et c'est une performance quand même de commenter tout seul pendant 90 minutes. J'ai beaucoup aimé cette semaine le Brésilien Firmino de Liverpool qui m'a enchanté devant mon poste de télé avec la victoire de Liverpool en Europa League. J'ai beaucoup aimé aussi les supporters du Gazelle Ajaccio
qui ont caricaturé et dénoncé le foot business parisien. Ils ont caricaturé l'émir Nasser avec ses pétrodollars. Voilà, j'aime bien, c'est une autre façon, hein, comme les Magic fans l'avaient fait. Voilà, ça peut ne pas plaire, j'en suis sûr qu'il y en a plein qui ne doivent pas apprécier, mais moi j'aime ça.
Ok, on passe au coup de tête, Marco.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Allez, Olivier.
Ouais, j'aurais bien aimé que Cardinal prenne un carton rouge aussi. Lors du match à Nice, je trouvais que c'était, ça aurait été justifié. Enfin, vu du stade, Eric.
Ouais, c'est vrai qu'il a traversé tout le terrain pour aller protester. Je crois qu'il s'est fait remettre en place par Claude Puel comme il fallait. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de tension. Je ne sais plus combien de cartons, 9, je crois, dans le match. Hein, donc, c'était assez particulier comme contexte. C'est vrai que les Nice-Saint-Etienne sont souvent chauds, mais là, ça a tourné en notre défaveur.
Voilà pour mon coup de tête.
Moi, bah, ce serait la cascade de blessures, encore une fois. Hein, j'en ai déjà parlé il y a pas mal de temps. On arrive en fin de saison, c'est toujours pareil, le même constat qui est fait. Certaines blessures s'éternisent sans qu'on sache vraiment ce qu'il en est, celle d'Amouma par exemple. Quand on voit que Paul Bayes a passé toute la saison dernière chez nous en étant blessé, et que depuis qu'il est à Nice, il joue tous les matchs, il y a de quoi quand même se poser des questions. Et puis mon coup de tête, on en a parlé également tout à l'heure, concernant les deux joueurs qui ont disjoncté. Il faut savoir maîtriser ses nerfs, surtout dans le Money Time, mais dans un match aussi décisif que celui-là. Plus important, ce ne sont pas les individualités, c'est la notion de groupe qui doit primer. Le respect des valeurs stéphanoises ne doit pas être galvaudé. On a redonné leur chance face aux Niçois à ces deux joueurs. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, de pénaliser tout un collectif qui s'est battu pour accrocher un nul qui, encore une fois, nous aurait permis de rester devant eux au classement et d'être maître de notre destin.
Bien, coup de tête pour moi, pas très drôle, mais bon, déjà mal cuit. Bon, bah, ouais, vous l'avez compris, cher auditeur, hein,
c'est cuit.
J'ai vraiment pas aimé sa prestation et ses prestations cette année, mais là, ça, je trouve ça un peu aberrant qu'il nous ait plombé le match. J'allais dire si tôt. Même si j'ai pas du tout aimé aussi la stratégie de Galtier pour cette rencontre et les rencontres précédentes. J'ai pas aimé cette semaine le décès du footballeur camerounais Patrick Nkeng, qui est mort sur le terrain pour un match de coupe dans le football en Roumanie, hein, c'est ça. Voilà, et un autre décès qui a rien à voir avec le foot mais qui me tient à cœur, bah, c'est la mort de Ciné. Ciné, un dessinateur contestataire que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours apprécié. Bon, ça faisait longtemps qu'il luttait avec sa maladie et puis bah, il nous a quitté cette semaine. Donc voilà, un petit coucou Ciné. Il aimait pas du tout le foot, mais bon, voilà, moi je l'apprécie énormément et
on va lui dédicacer un banzai.
Un banzai, comme on les aime. Eh ben écoutez, cher auditeur, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission suite au match face à Lille, samedi 21h, Geoffroy Guichard qui sera plein. Voilà, bonne semaine à vous, allez les Verts et banzai.
Oh les champions, on est tous ensemble. Tout ça, Geoffroy Guichard, samedi pour la finale, allez les Verts.